franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre et bonjour à tous. Là-haut, quelque part dans le ciel, un ange demande à Fiona « Tu trouves ça juste, toi, 5 ans ?»« Je ne sais pas », répond la petite, « je n'ai jamais eu 5 ans ». Voilà le genre de phrase qu'on peut lire depuis hier sur le réseau Twitter. Et parfois, c'est bien plus violent. 5 ans de prison, c'est tout ce que vaut la vie d'un enfant. Hashtag la justice part en couille. Hashtag Fiona. Une femme battue prend 10 ans ferme. Une raclure de mère qui tue sa fille prend 5 ans. Hashtag un scandale. Hashtag Fiona. Même l'ex-ministre Ramayad s'est fendu d'un tweet à l'annonce du verdict. Scandaleuse justice qui acquitte quasiment une mère indigne qui se payait sa drogue avec le RSA et veut faire d'autres enfants. Hashtag Fiona. Dans l'affaire Fiona, les internautes s'indignent du verdict. Commente 20 minutes ce matin. Procès Fiona, un verdict mal compris, confirme le Parisien. Fiona est morte en 2013, vraisemblablement à la suite de coups portés par son beau-père, mais ni lui ni la mère n'ont su dire où ils avaient par la suite enterré son corps. 20 ans de prison pour lui, 5 ans de prison pour elle. Ainsi en ont jugé la cour et les jurés du Puy-de-Dôme vendredi. Décision qui a donc provoqué des déluges de protestations passionnées sur les réseaux sociaux. Passion qu'on pouvait d'ailleurs également percevoir dans le public venu assister aux audiences, ainsi que l'écrit remarquablement Pascal Robert-Diard dans les colonnes du Monde. Dans la passion suscitée par cette affaire, écrit-elle, dans les commentaires qui accompagnaient les articles qui lui étaient consacrés, est apparue une France de Fiona. La France de Fiona criait sa fureur contre les tortionnaires qui ne méritent pas de vivre. Elle demandait qu'on lui livre les accusés contre un mur parce que, disait-elle, elle saurait comment s'en occuper. Elle suggérait, sous son vrai nom, sur les réseaux sociaux, de torturer la mère jusqu'à ce qu'elle parle, puis de la jeter dans une piscine d'acide. Elle exigeait le rétablissement de la peine de mort contre ces deux déchets de l'humanité. La France de Fiona s'est déchaînée lorsqu'elle a découvert le verdict mesuré rendu par la cour d'assises. Et à quelques mois de la présidentielle, conclut Pascal Robert-Diard, les états-majors des candidats devraient sans doute regarder de plus près ce pan du pays qui a grondé si fort pendant le procès Fiona, mieux regarder peut-être cette France de Fiona.
Et puis, bien sûr, Frédéric, il est question de la présidentielle dans les journaux ce matin.
Avec aujourd'hui le second tour de la primaire. Organisé pour la droite et le centre, Fillon-Juppé, le dénouement, titre ainsi l'Est éclair, tandis que Paris-Normandie se demande si l'on peut avoir un épilogue surprise. Les jeux sont-ils faits ? Questionne aussi le Parisien, qui dresse la liste des points forts de chacun des deux candidats sur le site Les Jours. Raphaël Garrigos et Isabelle Roberts reviennent de leur côté sur le dernier meeting de François Fillon vendredi, lequel a eu cette phrase, passée un peu inaperçue, « Le patriotisme est la seule façon de transcender nos origines, nos races, nos religions ». Il a dit le mot « race », un mot pourtant éliminé de la législation française depuis 2013. Qu'importe si l'on en juge par le nombre d'articles que lui consacre ce matin le journal du dimanche, c'est bien lui, François Fillon, le favori. Un papier sur les réseaux de François Fillon pour 2017. Que pourrait être la France de Fillon ? Un autre expliquant comment Fillon a obtenu le soutien du mouvement Sens commun. Et ce titre a sa une, Fillon dans la ligne droite. Quant au titre de l'article consacré à Alain Juppé, il résume tout ce que pense vraisemblablement l'hebdomadaire. Juppé y croyait si fort. Un autre visage, à la une également du JDD, celui de Manuel Valls. « Je me prépare », explique-t-il. En l'occurrence, il se prépare a candidaté pour la primaire à gauche. Il se dit prêt, et prêt, pourquoi pas, à affronter lors de cette primaire le président de la République, François Hollande. Dans le journal également un dossier de 6 pages sur la mort de Fidel Castro. Fidel Castro, 1926-2016, un supplément de 8 pages dans Le Monde également. Toute la presse, bien évidemment, revient sur le décès de celui qui, d'une main de fer, a dirigé Cuba durant près de 50 ans. Le père de la Révolution est mort, titre ainsi le Courrier de l'Ouest. Le leader Maximo rend les armes, titre Libération Champagne. Fidel Castro, la fin d'un mythe, titre La Dépêche du Dimanche. Mort d'un mythe et fin d'une époque, résume La Provence, tandis que L'Union évoque un homme qui savait être à la fois stratège et très séducteur, grande figure, ou tyran, dictateur, pour les uns résistants, pour les autres. On a à peu près tout entendu depuis hier sur le sujet. Mais comme le note le Huffington Post, on a pu constater hier que Fidel Castro divisait sérieusement la classe politique française.
Est-ce que vous auriez d'autres conseils de lecture dans la presse à nous donner,
que
Frédéric ?
Que faire de la maison natale d'Adolf Hitler ? C'est le dernier scandale qui secoue l'Autriche en ce moment. L'Autriche qui, la semaine prochaine, pourrait bien élire un président d'extrême droite et dans la petite ville de Braunau am Inn, ville jouxtant la frontière avec l'Allemagne, les autorités ne savent pas que faire de cette grande bâtisse qui vit naître Adolf Hitler, coincée entre un restaurant thaïlandais et une boutique de vêtements. Elle a accueilli tour à tour une école, une bibliothèque et un centre destiné aux handicapés. Mais comme on peut le lire dans les colonnes de Society, cette maison est maintenant inoccupée et le ministre de l'Intérieur a récemment proposé de la raser. Une proposition qui déplaît aux historiens, lesquels jugent que ça reviendrait à un véritable déni du passé nazi autrichien. Certains aujourd'hui préconisent d'y installer par exemple un commissariat ou encore un supermarché. Un supermarché dans la maison natale d'Adolf Hitler. Lire aussi cette semaine dans Courrier d'Art National le formidable récit que signe Odeh Azobi, un écrivain syrien chassé de son pays par la guerre et qui l'an dernier s'est du coup installé au Danemark. Formidable récit qui décrit notamment les entretiens auxquels il a dû se soumettre en arrivant dans le pays, bureau d'une fonctionnaire de l'administration danoise. « Avez-vous des problèmes psychologiques ?» demande-t-elle. Une petite voix en moi résiste à l'envie de rétorquer. Mais comme tous les Syriens, ma chère, comme tous les Syriens, je n'ai plus d'amis, ils se sont dispersés sur les voies de l'exil et je n'ai vu aucun d'entre eux depuis 5 ans. Mais finalement, je rassure mon interlocutrice. Non, non, madame, aucun problème psychologique. Il y a donc ce qu'il pense, il y a ce qu'il dit, mais c'est évidemment ce qu'il pense qui est le plus intéressant, en l'occurrence, que les Syriens ne pourront s'intégrer nulle part tant que leur pays sera en feu et qu'on ne peut leur parler comme s'ils étaient des imbéciles. Autre scène, en Turquie, avant le départ en avion, une mère syrienne et sa fille qui lui murmurent « Maman, je ne veux pas aller au Danemark, il paraît qu'il fait très très froid là-bas ». La mère la serre contre elle en pleurant, puis elle lâche « Le monde entier est glacial ». Désespéré, désespérant.
Et puis pour finir, des nouvelles sportives.
Avec la désolation de l'équipe suite à la défaite du 15 de France hier, les rugbymen tricolores ont réussi à bousculer les Néo-Zélandais, mais ce sont ces derniers qui finalement l'ont emporté par 24 à 19. Ça ne suffit pas, titre le quotidien sportif, estimant que les Bleus ont encore beaucoup de progrès à faire avant l'ouverture du tournoi des Six Nations en février. La France qui perd donc en rugby, mais qui toutefois domine dans des disciplines quelque peu cheloues, comme on dit. C'est ainsi qu'en septembre, Patricia, notre beau pays, remporter le championnat du monde de cache-cache. Eh bien, fin octobre, rebelote, comme le note le mensuel Néon. C'est une Bretonne de 26 ans qui a remporté en Égypte le concours international de sirène.
Il y a mais des oui, concours internationaux de
ça
sirène.
Ça existe, cette bien curieuse discipline consiste à nager sous l'eau, sans lunettes de plongée, en apnée donc, mais avec une grande queue de poisson. Et c'est assez sportif de la vie de la championne Ingrid Fabulé qui porte donc désormais le titre de sirène de l'année.
Pas mal ça.
En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des sirènes. Tout n'est donc pas désespéré, tout n'est donc pas désespérant.
Merci Frédéric Pommier. Voilà que vous nous avez fait rêver, notre Pierre Veille. Oui.